J'attends ma femme, la femme de ma vie. Je l'adore, c'est normal, c'est la femme de ma vie, mais de temps en temps, elle me rend dingue. Quand elle me fait attendre, par exemple. Je suis très patient en général, j'ai pas le choix, ça fait partie de mon boulot, je vous expliquerai plus tard. Seulement, ma patience a des limites. En l'occurrence, quand j'attends alors que je devrais pas attendre. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui vous font systématiquement attendre? On en connaît tous, non? Peut-être que vous en avez un de ce style assis à côté de vous. Vous savez pourquoi ils vous font attendre? Pour vous dominer. Vous faire attendre est un moyen pour eux de vous dominer. Je déteste qu'on me domine. Au fait, je ne suis pas dominé par ma femme, si c'est ça que vous êtes en train de vous dire. Ne me cherchez pas, sérieux. Non, le problème, c'est que depuis que je suis né, je ne supporte pas l'autorité abusive. Et le mauvais goût aussi. L'un n'allant pas sans l'autre, à mon avis. La première fois que j'ai pris conscience de ça, c'est avec ma mère en achetant des chaussures. C'était la rentrée des classes, j'avais besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Ma mère en a choisi une pour moi. J'ai tout de suite vu que c'était de la merde. Pas à cause de leur prix, j'y connaissais rien, juste en les regardant. Donc je lui ai montré celle que je voulais, ça l'a rendue hystérique, c'était les plus chères du magasin. Elle m'a hurlé dessus, comme si je la braquais avec un cran d'arrêt. Ça suffit, j'en ai marre de tes caprices, tu me rends folle. Et elle m'a acheté les plus merdiques en me disant que c'était exactement les mêmes que les autres. Ça m'a écœuré. Pourquoi elle me ment, je me disais. Pourquoi elle veut me faire croire que ses chaussures sont les mêmes que les autres? C'est beaucoup plus tard que j'ai compris qu'en fait, pour elle, il n'y avait aucune différence entre ces deux paires, à part leur prix. Elle pensait sincèrement qu'il fallait être débile pour pas s'en rendre compte, et carrément un pigeon pour les acheter. Aucune sensibilité à la qualité, voyez, aucun goût. Mon père nous attendait dans la voiture. Il détestait faire des courses avec nous. Ma mère lui a dit que j'avais fait un caprice dans le magasin, que j'avais voulu les chaussures les plus chères. J'étais assis à l'arrière, il s'est retourné et m'en a allongé une, qui m'a dévissé la tête, et une autre qui me l'a remise droite. Donc j'étais capricieux parce que j'avais du goût pour les belles choses. Je ne sais pas de qui je le tiens, ce bon goût d'ailleurs. Pas de mes parents, évidemment. Personne ne m'a jamais rien appris non plus dans ce domaine. Non, je l'ai en moi depuis ma naissance. Ça doit être de l'atavisme. Atavisme, apparition imprévue chez un individu, d'un trait de caractère qui s'était manifesté chez un de ses ancêtres et qui avait disparu depuis une ou plusieurs générations. Au cas où ça vous intéresserait. C'est pareil avec l'autorité. Depuis que je suis né, quand quelqu'un me demande de faire quelque chose, je sais tout de suite si c'est con ou pas. Fais ça, pourquoi? Parce que, par exemple, ça c'est con. Enfant, vous êtes entouré de gens qui n'arrêtent pas de vous dire ce qu'il faut faire. Intérieurement, vous vous dites c'est pas grave. Quand je serai grand, on me foutra la paix. C'est une erreur. Ça continue encore et toujours. Et pas seulement votre père ou votre mère, tout le monde. Votre patron, votre femme, les flics, tous ces connards là, qui savent tout mieux que tout le monde. Normalement, après le boulot, ma femme et moi, on se boit une petite vodka. Je rentre à la maison, elle me demande comment ça s'est passé, je réponds comme d'hab, et elle nous sert un verre. On bosse tous les deux dans la même boîte, un service de conciergerie pour les gens pétés d'oseille. Generosity. Générosité en français, un nom complètement con, je suis toujours un peu gêné de le prononcer. Générosity, c'est drôle, non? Notre boulot, c'est de répondre à toutes les demandes, des plus simples aux plus insolites, Un jet privé pour les Caraïbes, pas de problème. Privatiser une boucherie pour un dîner romantique. Aucun souci. Une Mercedes avec chauffeur, on fait appel à moi. Ou à l'un de mes collègues. Ma femme bosse dans les bureaux, moi je suis un simple chauffeur. Je passe la plupart de mon temps à attendre devant les hôtels, les magasins, l'aéroport, j'attends beaucoup, mais ça m'est égal, ma patience n'a aucune limite dans le domaine professionnel. J'en profite pour lire, j'ai toujours un livre en cours. J'aime lire, contrairement à ma femme. Ce qui ne l'empêche pas d'être très intelligente, brillante même. La semaine dernière, des clients lui ont demandé de trouver un équipage bilingue, arabe, vietnamien ou chinois, je ne sais plus très bien, pour convoyer leur yacht de Saint-Tropez à Dubaï. Et ça lui a pris une heure et demie, mais elle a déniché la perle rare. On a une vie tranquille, on ne sort pratiquement jamais. De temps en temps, je vais boire une bière avec un pote, Luc, un des chauffeurs de la boîte, qui n'aime pas lire, lui non plus. Ma femme, elle, elle est souvent dehors pour le boulot, elle n'a pas le choix, ça fait partie de son travail d'entretenir son réseau, elle est douée d'ailleurs pour ça, du coup on sort pas beaucoup, on se suffit à nous-mêmes. Je suis sûr que vous vous dites que ça doit être pratique de travailler dans la même boîte que sa femme, hein? Bah non, vous avez tout faux, nous c'est pas pratique du tout, personne sait qu'on est mariés, c'est un secret. Officiellement on n'est pas ensemble, officiellement on a une adresse différente, je vous expliquerai tout à l'heure. Il faut d'abord que je vous parle de deux villes. J'ai reçu un appel du bureau de ma femme, en l'occurrence, me demandant très poliment, comme toujours, d'aller chercher à son hôtel un certain monsieur Deville pour le conduire à un restaurant. À mon avis, tu vas beaucoup l'aimer, a dit ma femme, ce qui m'a intrigué parce que c'est pas du tout son genre de faire des commentaires. Pour dire la vérité, ça m'a même un peu titillé. Quand je suis arrivé devant l'hôtel, deux hommes attendaient, un gros, habillé comme un sac, et un autre avec beaucoup d'allure, de classe. J'ai tout de suite compris lequel des deux était Deville et pourquoi ma femme avait dit ce qu'elle avait dit. La cinquantaine, grand et lancé, le teint hâlé, brun, quelques cheveux blancs, il portait un costume bleu profond, magnifique, en lin et coton, avec sûrement un peu de soie aussi parce que c'est plus sympa, et une chemise blanche à col ouvert, sans cravate, au pied une très belle paire de Richelieu en daim. La coupe de son costume était d'une élégance rare, à la fois structurée et souple. La qualité du tissu, les boutons en corne de sa veste, les plis du pantalon qui tombaient à la perfection, tout racontait le savoir-faire des tailleurs anglais de Saville Row à Londres. Bref, cet homme avait du goût. Et c'est donc avec un enthousiasme non dissimulé que je suis sorti de la voiture et me suis avancé vers lui, la main tendue, en ignorant le gros qui était en plein monologue. Monsieur Deville, j'ai dit, il a souri, très beau sourire, et a répondu « Bonjour Franck, belle lumière, belle séquence d'ouverture. » Et quand j'ai ouvert la portière, le gros là qui n'arrêtait pas de jacter, on aurait dit un canard, s'est engouffré le premier pour s'asseoir. Deville a eu un léger haussement d'épaule, genre c'est comme ça, c'est la vie, et a pris place à son tour sur la banquette arrière. Et j'ai mis les voiles avec le canard qui causait placement, investissement, j'avais du mal à entendre, il parlait tout bas. Dans le rétro, je le voyais faire encore et toujours coin-coin à l'oreille de Deville, qui lui restait imperturbable, silencieux, le regard droit. Ça le désespérait le canard. Il en dégoulinait de sueur, il se collait de plus en plus à Deville, encore un peu, il allait finir sur ses genoux. J'étais à deux doigts de m'arrêter, de faire le tour de la bagnole, d'ouvrir la portière et de lui dire « Qu'est-ce que tu fous, là, sérieux, tu peux pas la fermer ? Tu vois pas que monsieur a besoin de tranquillité, là ? Et s'il l'avait pas fermé, lui donner une claque, histoire de lui rappeler les bonnes manières. » Mais j'ai continué à conduire, évidemment. Je suis pas complètement demeuré. Quand on est arrivé devant le restaurant, je suis descendu rapidement vers la portière, Deville est sorti. Le canard a voulu me suivre, mais Deville l'a stoppé net d'un geste de la main en lui disant « Non, restez là ». Le canard a commencé à protester, une de ses jambes à moitié dehors, donc j'ai claqué la portière. Ce qui l'a fait rentrer Fissa et fermer sa gueule. Deville a soupiré en disant « Il y a des jours plus difficiles que d'autres. J'ai enchaîné, si je peux vous être utile en quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. » Oui, il a répondu, conduisez ce monsieur où il le souhaite et soyez de retour à 22h précise. Très bien, j'ai répondu, et comme j'allais reprendre ma place au volant, il m'a retenu par le bras. Attendez, il a ajouté, est-ce que vous pouvez me rendre un service? Avec plaisir, monsieur, j'ai dit. Deville a tourné le dos à la Mercedes où par la vitre arrière, le canard nous observait. Et il a chuchoté, je suis curieux de savoir où il va aller et surtout pour voir qui. Pas besoin de nom ni de détails inutiles, allez à l'essentiel. Vous comprenez? Absolument, j'ai répondu. Et c'était vrai, je comprenais très bien ce que me demandait Deville. Je crois pas me tromper en disant que dès la première seconde, j'ai compris cet homme. Et je n'ai pas honte de le dire, je n'avais aucune envie de le décevoir. Pas parce qu'il avait un costume sur mesure, contrairement à ce que certains d'entre vous pourraient penser, Non, parce que sa classe, son autorité naturelle me fascinait. Alors je sais, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais un problème avec l'autorité, mais si vous avez été attentif, j'ai parlé d'autorité abusive. Mon problème, c'est les cons autoritaires. Pas l'autorité en soi. Bref, Deville est entré dans le restaurant et moi je suis retourné au volant de ma voiture. Où monsieur désire-t-il aller? J'ai demandé au canard qui s'excitait sur trois téléphones à la fois. Il avait l'air contrarié, il a joué encore une minute ou deux avec ses téléphones, genre j'ai plusieurs dossiers en cours, et a fini par me donner une adresse. J'ai enclenché la première deux secondes. Allez, une histoire avec un con autoritaire. Quand j'ai arrêté l'école, j'ai vendu de la moquette. Ma mère connaissait le responsable du magasin, enfin connaissait, c'était son mec quoi. Un fan de métal avec un gros bide, une queue de cheval et un vautour tatoué sur l'épaule. Vous vous souvenez de ma mère et de son bout de chiotte? Elle adorait la moquette qu'on vendait, mais bon, moi je m'en foutais de vendre de la merde, j'étais à l'abri, au chaud, en plus je devais porter un costume. Je lui avais emprunté de l'argent pour en acheter un pas trop cher, bleu marine, et j'étais allé chez le retoucheur. Il avait ajusté le pantalon, repris le bas des manches, ce qui avait permis à mes poignées de chemise de dépasser d'un centimètre. Vous avez remarqué que dans le prêt-à-porter, les manches des vestes sont toujours trop longues. Quand on n'a pas les moyens de s'offrir un costume sur mesure, il faut connaître un bon retoucheur, ça change la vie. Les gens dans le magasin allaient directement vers moi, ils pensaient que c'était moi le responsable, grâce au costume. Le bon goût, voyez-vous, donc tout se passait bien, enfin tout se passait bien, sauf les fois où je rentrais à la maison et que je voyais le vautour écroulé dans le canapé avec ma mère, en train de mater la télé et de jouer avec sa queue de cheval. Il faisait trop le patron. Mais bon, ça m'empêchait pas de dormir ni de réussir, j'apprends vite. Il m'a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre l'univers de la moquette. Les gammes, les prix, les marges de négociation, je suis très positif comme garçon, moi. Quoi que je fasse comme boulot, je me projette dans l'avenir. Je suis sûr de réussir, d'avoir du succès, une belle vie. Dans ce magasin de moquettes pourries, je m'imaginais un futur où je serais mon propre patron, dans un quartier chic, avec la clientèle qui va avec. Des voyages à l'étranger aussi, pour le business. Bref, je fantasmais à mort. Je rigolais aussi avec une fille de la compta, Christelle, avec qui j'allais boire des coups de temps en temps. Une fille très intéressante, cette Christelle. Très fine. Le vautour voulait toujours nous suivre. Nous, on lui donnait le nom d'un bar. Super, je vous rejoins, il disait, et en fait, on allait ailleurs. Ça a fini par le stresser, et un jour que j'étais en train de vendre de la moquette, 40 mètres carrés, de moquettes rose fuchsia à des jeunes mariés, une surface importante pour laquelle j'allais être commissionné, ils hésitaient, faisaient genre, mais j'étais serein, je savais que la vente aurait lieu. Il déboule, et il me dit, c'est bon Franck, je prends le relais. Et il ajoute à l'intention des tourtereaux, monsieur n'est pas avec nous depuis longtemps, il tâtonne encore. J'ai failli lui donner une claque, histoire de lui rappeler les bonnes manières. Mais je me suis abstenu, j'ai attendu d'être... Enfin, la pause déjeuner, et là, je l'ai chopé dans les chiottes et je lui ai mis un direct au foie. Ça l'a plié en deux, il est devenu blanc comme un linge. « T'es toujours sûr que je tâtonne ?» je lui ai demandé. Le temps qu'il reprenne son souffle, il m'a dit « T'es viré, connard, prends tes affaires et tire-toi. » J'ai répondu « Tu me vires, je vais direct voir ma mère pour lui dire que tu la trompes avec Christelle, que je t'ai surpris en train de la prendre en levrette sur de la moquette en solde. » Ça l'a fait changer de couleur. De blanc, il est devenu rouge, la bouche ouverte comme un poisson privé de son bocal. J'avais pas envisagé cette hypothèse, mais en fait, il couchait vraiment avec Christelle. Il a pensé qu'elle me l'avait dit, donc il l'a viré aussi. Le soir même, Christelle a débarqué à la maison, ivre morte, et elle a défoncé la porte à coups de pompe, en hurlant le nom du vautour qui était au plumard avec ma mère. Ça a mis un point final à ma carrière dans la moquette. C'est dommage, parce que je suis sûr que j'avais de l'avenir. Et que j'aurais réussi, grâce à mon bon goût. Si vous suivez toujours. Bien. Revenons au canard qui suait sur le cuir de la Mercedes tout en jouant avec ses trois portables. Je me suis engagé dans la rue qu'il m'avait indiquée et une cinquantaine de mètres plus loin, il a hurlé « Stop !» Donc j'ai stoppé et il est sorti de la voiture comme un diable de sa boîte, sans dire merci évidemment et encore moins laisser de pourboire. À mon tour, je suis sorti pour épousseter la carrosserie. Histoire de mieux repérer où il allait, il se dirigeait vers une maison à la porte d'entrée encadrée par deux caméras de surveillance. Le canard a sonné et deux secondes plus tard, la porte s'est ouverte sur un mec balèze. Les cheveux courts, en costume et cravate noire, le genre de comique qui s'auto-proclame expert en sécurité. Il a laissé entrer le canard en jetant un coup d'œil rapide dans la rue sans particulièrement noter ma présence. Encore une bonne niche qui fait le ménage, il a dû penser. Bref, tout ce que j'avais, c'était une adresse et un mec balèze en costume. Pas assez à mon goût pour satisfaire de ville. J'étais en train de chercher un moyen pour en savoir plus quand je m'aperçois que le canard a oublié un de ses portables dans la voiture. Eh oui, parfois la vie vous sourit. Qui ne tente rien n'a rien, etc., etc. Donc je prends le portable, je traverse la rue, je sonne à l'interphone. Le comique ouvre, me dévisage méchamment avec un regard de veau lobotomisé perdu dans une grosse tête nourrie aux stéroïdes. Je dis, la personne que je viens de conduire ici a oublié son téléphone dans la voiture, il digère l'information, tend sa grosse patte et me répond, donnez. Chelou l'accent. Pas russe, sûr et certain, je connais bien l'accent russe. Genre serbe. Je rétorque, désolé, je ne peux pas. Je dois lui remettre en main propre, question d'éthique de responsabilité. Il comprend pas bien le concept, ça se voit. Je suis pas sûr non plus de le maîtriser totalement, mais bon, pendant qu'il essaie d'en saisir la subtilité, j'en profite pour forcer le passage et je rentre dans le vestibule. Il aime pas, sa grosse patte arrière, m'arrête net par l'épaule et il tend son autre grosse patte en redisant « Donnez ». Mon père m'a toujours dit « Tape d'abord, discute après, ça évite les embrouilles ». J'ai suivi son conseil, je lui ai explosé les couilles au comique. Le problème des types qui soulèvent de la fonte toute la journée, c'est qu'ils n'ont aucun réflexe. Ils peuvent vous démonter la tête, mais uniquement sur rendez-vous et encore une semaine à l'avance. Son regard de veau s'est attristé, il est tombé sur le carrelage. En entraînant dans sa chute la console et la lampe posée dessus, ça a fait du bruit. J'ai décidé de ne pas envenimer les choses. J'ai fermé la porte, il était à quatre pattes et couiné comme un jouet pour chien. Ça faisait des ordres. Là, il s'est passé deux choses. La première, c'est une femme qui a surgi de nulle part. La quarantaine, surmaquillée, surbronzée, surmoulée, dans un jean à paillettes. Elle allait émettre un son quand, deuxième événement, une sonnerie a retenti. L'écran relié au système de vidéosurveillance a laissé apparaître un type en survette, hyper grand, très maigre, genre asperge, bouffé par les piercings avec des boîtes à pizza sur les bras. Miss Monde s'est précipité sur le combiné, elle hurlait pas maintenant à l'asperge, qui aussitôt s'est effacé de l'image. Ensuite, elle s'est tournée vers le comique, qui essayait comme il pouvait de s'extraire de la console et de la lampe. Il lui a demandé « Qu'est-ce qui se passe, Francis ?» Francis, pété de rire. Bref, comme Francis était incapable de répondre, j'ai causé à sa place. Il a fait une mauvaise chute, j'ai dit. Miss Monde m'a scanné des pieds à la tête avec un regard de tueuse. Vous êtes qui, vous, putain ? Elle a demandé. Charmant. Le chauffeur du monsieur que je viens de déposer chez vous, il a oublié ça dans la voiture. J'ai répondu en montrant le portable du canard. J'ai cru qu'elle allait me dire de lui donner le téléphone et que j'allais une nouvelle fois devoir parler d'éthique de responsabilité. Quand Mister Canard est arrivé à point nommé. Monsieur, j'ai dit, vous avez oublié votre portable dans la voiture. Il était pétrifié. Il regardait Miss Monde sans bouger. Mais comme elle a fini par lui faire un signe de la tête, il m'a arraché le téléphone des mains avant de s'enfuir comme un crevard d'où il venait. Pendant ce temps, le Serbe avait réussi à se remettre en position verticale, il me fusillait du regard, les mains recroquevillées sur les valseuses. Ce qui intriguait Miss Monde. Elle cherchait à comprendre ce qui s'était passé. Ça se voyait qu'elle aimait châtier les coupables. Sauf que là, elle n'arrivait pas à se décider entre le comique et moi. Du coup, elle m'a congédié avec le plus grand mépris. J'en remercie, ça ira pour aujourd'hui. Je l'ai salué d'un léger signe de tête. J'ai souri à Francis en lui souhaitant une bonne journée. Et j'ai mis les voiles. L'asperge percée, ses pizzas à bras attendaient calées contre un mur au bout de la rue. J'ai démarré la voiture, roulé 200 mètres, et me suis arrêté. Dans le rétro, je l'ai vu sonner à la porte et le Serbe ouvrir. J'ai dégagé avant qu'il me repère.
Il m'a fait pitié tout à coup, Francis. Être obligé d'immigrer pour trouver du travail alors qu'on est si costaud. Décidément, c'est pas facile la vie, je me suis dit. Bref, j'étais comme convenu devant le restaurant à 22h. David est sorti une minute plus tard, j'ai bondi de la voiture pour lui ouvrir la portière, mais il a voulu s'asseoir devant.
On a évoqué son dîner brièvement, il s'était régalé d'une dorade rôtie au fenouil. J'ai pris note, je connais par cœur la carte des meilleurs restaurants de la ville dans lesquels je ne dîne jamais. Ma femme, elle aussi, c'est normal, elle doit se faire son propre avis, mais je ne l'accompagne pas. Au cas où des clients me reconnaîtraient. Vous comprendrez plus tard.
Deville m'a dit: alors, dites-moi tout, qu'a fait notre ami? Donc j'ai eu tout raconté, où le canard avait voulu que je dépose, l'adresse exacte, qu'il avait oublié un de ses portables dans la voiture. J'ai parlé de Miss Monde aussi. J'ai appris qu'en fait c'était la femme du canard, et du Serbe, le comique portier là. Ça l'a fait tiquer Deville, un Serbe il a dit, c'est comme ça que ça va se passer alors. Puis il s'est tu, et il a regardé par la fenêtre. Il réfléchissait apparemment, donc je l'ai fermé, je me suis concentré sur la route. Quand on est arrivé à l'hôtel, il m'a tendu une enveloppe. Merci Franck, vous avez dépassé toutes mes attentes. Et il a ajouté: j'aimerais bien, si vous en êtes d'accord, bien sûr, que vous soyez à ma disposition demain toute la journée. J'ai appelé le bureau, il n'y voit aucun inconvénient. Moi non plus, j'ai répondu: avec plaisir, monsieur. Et il est sorti de la voiture pour entrer dans son hôtel. J'ai attendu d'être à la maison pour ouvrir l'enveloppe. 7 billets de 100, des billets neufs, sans un pli. C'est ça que j'appelle un pourboire. J'étais impatient d'être le lendemain, je vous l'ai dit, j'avais un bon feeling avec Deville. C'était le genre de type avec qui on s'ennuyait pas. Avec qui vous étiez sûr qu'il allait se passer quelque chose, quoi, j'en savais foutre rien, et franchement, c'était le cadet de mes soucis. Je voulais juste en être. Donc, après ma débâcle dans l'univers de la moquette, j'ai travaillé dans les meubles. Logique, non ? Ce qui nous ramène à ma chère mère pour la dernière fois, promis. Le jour où elle a largué son vautour, bizarrement, elle s'est maquée avec un mec très bien élevé, en costume velours, antiquaire, spécialiste en art nouveau. Je sais toujours pas ce qu'il a trouvé à ma mère, je cherche encore. Bref, ce mec vintage, papy pour les intimes, m'appelait de temps en temps pour livrer des meubles. J'adorais ça, j'aimais la beauté, l'esthétique de cette période. C'était la première fois de ma vie que j'approchais des choses aussi belles, que je pouvais les toucher, les sentir. Ouvrir le tiroir d'une commode de plus d'un siècle, plonger la tête dedans, sniffer l'odeur, une odeur de vieux, dans le bon sens du terme, de l'excellence. C'est pas le mot juste d'ailleurs, odeur, l'arôme. Voilà, c'est ça, l'arôme de l'excellence. À part les livraisons, j'aidais aussi dans le magasin, je déplaçais les meubles, je proposais un café aux clients, mais surtout je m'intéressais, je posais des questions à papy, et je lui montrais que je comprenais les réponses. Et un jour, un de ses amis antiquaires, expert en art déco lui, se ramène avec une commode Art Nouveau signée Hector Guimard. Ils faisaient du business ensemble de temps en temps avec papy. C'était un clown ce mec. C'est souvent des gros branleurs les antiquaires. Bref, papy était aux anges, il n'arrêtait pas de répéter quelle pièce exceptionnelle. Il m'appelle: Franck, viens voir comme cette commode est magnifique. Donc j'y vais. Et c'est vrai qu'elle était très belle cette commode, à part un détail, les poignées. Elle n'était pas d'origine, ça se voyait, elle m'agressait comme m'avait agressé les chaussures pourries que ma mère m'avait achetées quand j'étais gamin. Donc, je dis très tranquillement, très modestement, pardon, ne le prenez pas mal, mais elles sont pas un peu bizarres les poignées? Ça l'a fait rire le clown, jaune. Bizarre! Il a répété le mot deux fois avant d'enchaîner sur un ton ironique: le prends pas mal toi, mais pourquoi tu causes, t'y connais rien? Papy se penche, chausse ses lunettes, il regarde une poignée pendant des plombes, sans dire un mot, et finit par articuler: pardon Gérard, c'était le nom du clown. Mais le gamin a raison, ses poignées ne sont pas d'époque. Là, c'est au tour de Gérard de mettre ses lunettes, ils sont tous aveugles dans ce métier, et de fixer une poignée pendant une heure pour finalement dire: je suis pas spécialiste en art nouveau moi, mais si tu penses qu'il y a un souci, pas de problème, on va s'arranger. Aucune excuse à mon endroit, vous avez remarqué, alors que j'avais raison, qu'il m'avait traité d'ignorant, d'âne batté. Ils vont dans le bureau, une pièce vitrée au fond du magasin, le clown finit par sortir avec difficulté une liasse de billets de sa poche pour en donner quelques-uns à papy, qui, apparemment, avait déjà craché au bassinet pour cette commode, et se faisait dédommager. C'était pas un problème pour papy de trouver des poignées d'époque. Non, le problème, c'est que ce connard l'avait pris pour un con, alors qu'il était quand même censé être son ami. Vous voyez, à l'époque, j'étais jeune, j'avais foi en l'humanité. La duplicité des êtres humains me révoltait encore. Duplicité, caractère de quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est. Malhonnêteté, fourberie. Au cas où ça vous intéresserait.
Une fois le clown parti, papy m'appelle dans son bureau. T'es doué, une vie, t'as un œil, c'est très rare. Évidemment, il te manque des connaissances, mais bon, si t'es prêt à travailler beaucoup, je ferai tout pour t'aider. Qu'est-ce que t'en penses? J'en serais ravi, j'ai répondu, ou un truc de ce genre.
Et on s'est serré la main. Donc, je remets mon costume, et je passe de plus en plus de temps au magasin. Papy me montre des livres, des photos, m'emmène aux ventes, aux enchères, bref, il m'apprend le métier. Je vous l'ai déjà dit, hein, quand quelque chose m'intéresse, moi je suis une éponge, j'absorbe tout, donc très vite, je viens incollable. Je suis capable de discuter avec les clientes, parler chanfrein, assemblage à queue d'aron, marqueterie, vernis. Je me projette dans l'avenir, encore 2 ou 3 ans, je me mettrai à mon propre compte. J'aurai une boutique à moi, un livreur, une secrétaire. Le même genre que Christelle.
Alors évidemment, j'étais payé au lance-pierre. Le minimum du minimum, mais bon, j'apprenais le métier, c'était normal, sauf que j'avais des frais, je sortais beaucoup. Il faut faire un carnet d'adresses dans ce milieu, hein. Ça coûte cher tout ça. Donc, je m'agouillais un peu, ce qui me semblait faire partie de mon apprentissage.
Ça va, c'est bon, ça va, arrêtez de me juger, essayez de comprendre, d'accord? C'est un malentendu, cette histoire de chandelier. J'ai manqué de jugement, c'est vrai, j'ai été négligent, mais sans déconner, ils étaient 1930, et même pas en argent massif, en plus. C'était de la merde. Papy en a fait des caisses, le ton a monté, j'étais à 2 doigts de lui. Dû mettre une claque. Pour lui rappeler que la vie, c'est pas toujours facile, mais je suis pas le genre à taper un mec en costume velours. Il a voulu appeler la police, ma mère l'en a empêché.
Ce qui m'a le plus contrarié dans cette affaire, c'est qu'elle a commencé, qu'elle a continué à le voir après cette histoire. Vous trouvez ça normal, vous? Un mec qui m'a sabordé ma carrière d'antiquaire, tout ça pour des chandeliers de merde. Ça m'a beaucoup blessé, ça, beaucoup. Donc je suis allé voir ma mère. Et je lui ai dit, choisis entre lui et moi.
Bien, ma grosse journée avec Deville. Tôt le matin, dans une très belle lumière de printemps, j'ai garé la Mercedes devant son hôtel. Il est sorti dans un costume de lin gris avec une simple chemise blanche et une très jolie paire de derby marron noisette. Usé juste ce qu'il faut, la classe, le bon goût, voyez-vous. Et il a voulu s'asseoir à nouveau à côté de moi, j'ai dû déplacer le bouquin que j'avais posé sur le siège. Je me suis excusé en rangeant dans la boîte à gants, c'était le père humilié de Claudel. Vous aimez lire? Il m'a demandé. Ouais, j'ai répondu, en ce moment je rattrape mon retard, j'ai jamais lu du Claudel. Deville a dit, c'est un grand écrivain, mais j'ai un peu de mal avec sa foi catholique. Et on a parlé littérature, d'Hemingway, de Zola, de Kerouac, de Flaubert, des classiques, quoi. J'ai compris que Deville aimait beaucoup lire, lui aussi. Si vous pensez que j'ai fait exprès de laisser traîner un bouquin pour lui en mettre plein la vue, allez vous faire foutre, ne me cherchez pas sérieux. Imaginez pas trop de trucs. Pour vous expliquer pourquoi j'aime lire, il faut que je revienne à l'époque où je travaillais chez un traiteur. C'est là que tout s'est compliqué, en fait. On organisait des cocktails pour des séminaires d'entreprise, des lancements de produits, ce genre de conneries, quoi. Les buffets étaient raffinés, sushi, caviar, foie gras, huîtres à gogo avec un mec en marinière qui les ouvre devant vous. Fontaine de chocolat pour amuser la galerie. J'ai commencé par livrer la vaisselle et les verres, installer les tables et les chaises. Il y a toujours un problème avec le matériel, mais bon, moi j'arrangeais les choses, je sais parler aux clients. Ils m'aiment bien en général, normal, je suis très sympathique comme garçon. Donc le big boss Igor m'envoie acheter un smoking, pas un smoking de couturier, mais bon, grâce à mon retoucheur, ça fait la blague. Et je peux mettre en valeur une jolie paire de chaussures sur un pantalon ajusté. Vous voulez connaître un secret? C'est aux hommes que je m'adresse, hein. Les femmes le connaissent déjà. Tout est dans les chaussures. Quand vous entrez dans un restaurant, n'importe quel maître d'hôtel digne de ce nom regarde vos pompes. C'est pareil chez un antiquaire ou dans une galerie d'art. Il n'y a que les tocards qui mettent tout leur pognon dans leur costume et que dalle dans leurs chaussures. C'est-à-dire la plupart des hommes qui globalement ont tous un goût de chiotte. N'est-ce pas, messieurs? Je vous apprends rien. Bref, je monte en grade et me voilà responsable des plus modestes événements, c'est vrai, mais comme d'habitude, j'apprends vite, je m'intéresse à tout, aux multiples variétés de fromages,
à la différence entre le saumon d'Écosse et celui de Norvège, à l'origine des viandes. Je goûte à tout, je parle au chef, j'en magasine à fond et je deviens un collab. J'ai aussi une histoire avec une serveuse ukrainienne, Ursula, une fille complètement barrée mais très intéressante. Très fine surtout. Elle a un pote qui bosse dans un bar hyper branché, donc après le boulot on y va pour boire un verre. Et un soir je discute avec le taulier, Jean-Charles, snob comme un coup mais raffiné. Il avait une paire de chaussures magnifiques en cuir de Russie, un cuir qui avait passé 200 ans au fond de la mer avant d'avoir été remonté à la surface, sans aucune trace de vase. Franchement, respect. Et on parle gaspillage. Je raconte la tonne de nourriture qu'on jette à la fin des cocktails à cause des normes d'hygiène. Je le sens très intéressé par la conversation et choqué comme moi. On trouve ça indécent. On a sûrement une solution pour éviter ça. Il me dit, ouais, sûrement, je réponds. Et on la trouve, la solution. On met en place une stratégie pour lutter contre tout ce gâchis. Le chef cuistot me montre discrètement ce qui doit finir à la poubelle et je le livre à Jean-Charles. Tout le monde est content, gagne de l'argent. En même temps, c'est normal, ça nous prend du temps. Alors, c'est vrai, parfois, la demande est plus forte que l'offre. Les produits livrés, pas toujours destinés à la poubelle, mais c'est quand même souvent le cas, promis. Et un jour, Ursula disparaît. On a organisé une soirée pour une clinique de chirurgie esthétique. Elle vient pas bosser et elle donne plus signe de vie. Ça m'a rendu triste. Ça m'a déçu aussi. Elle était vraiment barrée, cette fille. Elle tenait un blog sur le cancer avec des photos d'elle, la tête rasée. Elle portait une perruque au boulot. Ça m'excitait, ça. J'adorais son crâne. Elle disait qu'elle avait un cancer du cerveau. Moi, je trouvais pas ça de très bon goût. Parce qu'elle se faisait de la thune avec ça. Il y a des limites, quand même. C'est vrai qu'elle était perchée, mais son pet au casque, c'était pas dû à un cancer. Bref, le soir où elle a disparu, j'étais dans le congélo en train de me servir de gambas pour Jean-Charles, quand j'entends du bruit. Tiens, je me dis, il y a quelqu'un. C'était Igor, le big boss. Pris la main dans le sac de gambas en l'occurrence. Il n'y avait plus rien à faire, j'allais pas essayer de me justifier, ça aurait été indécent. Sois un homme, je me dis, assume. Ce qui m'a contrarié, c'est de voir à quel point il était content de lui. Il aurait dû avoir de la peine. Il m'avait fait confiance, payé un smoking, donné des responsabilités et je le trahissais. Mais non, il jouissait, ce con. La nature humaine me surprendra toujours. Au lieu de me dire gentiment, c'est bon, récupère tes affaires, va jouer ailleurs et là tout serait bien passé, il me faisait la morale. Il m'humiliait en prenant son temps. Donc je lui ai mis un coup de boule. Ça l'a calmé direct. Il est tombé sur les genoux, j'aurais dû en rester là, me casser avec les gambas en lui disant sans rancune, bonne continuation, mais non, je lui ai remis un coup dans sa gueule. Avec un poulpe. Congelé le poulpe, raide comme la justice et dur comme la pierre, un gros poulpe. Je lui ai démonté la tête avec un revers sur la tempe. Un de ses yeux est sorti de son orbite. Il était défoncé par terre, entouré de gambas congelés qui me fixaient de leurs yeux brillants. Le sien aussi me fixait, celui qui pendait. Il a repris connaissance au bout d'une heure. Son œil était à moitié congelé, c'est ça qui l'a sauvé apparemment. Comme quoi, il n'y a pas toujours que des mauvaises nouvelles dans la vie. Hein. C'est vrai, c'est le soir où Ursula n'est pas venue travailler, où elle a disparu pour toujours, que l'autre m'a chopé avec un sac de gambas. Alors qu'à d'habitude, il n'y allait jamais dans ce congélo. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Mais je suis pas d'accord avec vous. Ursula, c'était... Elle était... Elle m'aurait jamais fait ça, c'est tout.
Allez savoir, peut-être qu'elle est vraiment morte d'un cancer. Ça serait horrible. Pensez ce que vous voulez, je m'en fous. C'est en prison que je me suis mis à lire. J'avais eu 2-3 embrouilles dans le passé avec la justice, le coup du poulpe a aggravé mon cas. J'ai pris du ferme. Mon père m'a toujours dit, si tu finis en tôle, baisse jamais les armes. Enfin, soyons précis, quand tu finiras en tôle, il disait. Ce qui vous en dit assez sur mon père. Il avait raison, là-bas, question autorité, c'est la fête au village. Hein, les Jeux Olympiques de la connerie. Hein. Tout le monde est à fond. Les matons comme la racaille. Hein. Faut jamais s'écraser devant ces gens, jamais. Jamais baisser la tête. Je me suis fait respecter, hein, je me suis battu une réputation, on avait peur de moi. L'avantage c'est que vous êtes peinard, l'inconvénient c'est que vous restez plus longtemps à l'ombre. Mais j'ai découvert la lecture. Et ça m'a sauvé. Je vivais dans l'ignorance quand soudain la lumière.
Vous avez déjà été dans un stade de football en pleine nuit et tout d'un coup quelqu'un allume le projecteur? Moi oui. Là ça a été pareil.
Mais dans ma tête. J'ai adoré le quartier d'isolement, là-bas c'est silencieux, on a la paix, donc j'ai tout lu, Chateaubriand, Balzac, Shakespeare, la Bible. Guerre et paix aussi, Moby Dick et Don Quichotte. Est-ce que quelqu'un parmi vous a lu ces 3 livres? Ou même un seul d'entre eux? Je suis entouré de dignards, sans déconner, Pierre Cantôle. À propos, j'ai jamais dit à David que j'avais fait de la prison, je suis pas complètement demeuré. Bref, retour dans la Mercedes. David m'a dit, Franck, je suis face à un dilemme et j'ai besoin de vos conseils. Avec plaisir, j'ai répondu, si je peux vous aider, sans être surpris qu'il me demande mon avis. Je me sentais flatté, c'est vrai, mais j'étais pas surpris, le courant passait entre nous, je vous l'ai déjà dit. Non? Oui? Parce que c'était lui. Parce que c'était moi. J'ai appris que Delille était conseiller financier et qu'il aidait les gens avec des problèmes de liquidité, pas au sens où il leur manquerait, au contraire, quand ils en avaient trop. Comme le canard qui avait un problème de cash de 5 millions, il avait vendu les parts qu'il détenait dans une chaîne de salles de sport, du moins c'est comme ça qu'il justifiait cet argent liquide. J'avoue que j'ai du mal à l'imaginer dans le business du sport, a dit Delille, mais bon, c'est pas notre problème, c'est ce qui va se passer maintenant. J'ai adoré qu'il dise notre problème. J'ai créé une société fictive dans un paradis fiscal, a continué Deville, qui va permettre à son argent amputé de ma commission, bien sûr, de retrouver le chemin de la légalité et d'être dépensé en toute sérénité. Où est l'argent en ce moment? J'ai demandé. Deville m'a répondu que le canard et sa femme l'avaient caché dans une résidence hôtelière et que c'était après que les choses s'étaient envenimées. Pourquoi? J'ai demandé. Il a réfléchi un instant, je sentais que je posais la bonne question. Aussi surprenant que ça puisse être, il a fini par dire, le canard a une maîtresse, une jeune Thaïlandaise. Le lendemain du jour où ils ont caché l'argent, la femme du canard a trouvé dans le portable de son mari des photos pour le moins explicites et elle l'a très mal pris. Elle pense que le canard veut se barrer avec l'argent et la Thaïlandaise. J'ai demandé. Oui, elle se méfie, a répondu Deville. Pardon de poser une question idiote, j'ai dit, mais pourquoi il n'a pas déjà pris cet argent? Deville a soupiré. Le soir où la femme du canard a découvert les photos, le canard a trop bu, il a fait un coma éthylique et sa femme en a profité pour lui voler les clés de l'appartement. Deuxième question idiote, pourquoi elle n'a pas pris l'argent? J'ai demandé. Parce que ces clés, en fait, sont des passes électroniques, a répondu Deville. Il en faut un pour entrer dans l'immeuble et un autre dans l'appartement, mais
Et là, il n'a pas pu s'empêcher de glousser comme un dindon. Il ne fonctionne qu'associé à des codes que seul le canard connaît. J'étais mort de rire. Quel baltringue ce mec. Rien de surprenant, l'argent va au con comme l'eau à la rivière, dit souvent ma femme, mais à ce point. Bref, Deville m'a dit que le plan était d'aller ce soir à l'appartement, le canard avec ses codes, sa femme avec ses passes, et de partager l'argent entre eux. Ce qui m'inquiète, il a ajouté, c'est l'apparition soudaine du cerf dans le jeu. J'ai l'impression que la femme du canard a une idée en tête. C'est évident, j'ai dit. Oui, il a répondu, j'ai peur que ça finisse mal cette histoire. En général, je me tiens à l'écart de ce genre de situation. La seule chose que je sais malmener, c'est un bilan comptable, un serbe, c'est au-delà de mon domaine de compétences. Et il s'est tourné vers moi pour me dire, voilà où j'ai besoin de vos conseils, cher Franck, à votre avis, devons-nous nous tenir à l'écart de cette situation? Les battements de mon cœur se sont accélérés. J'ai répondu très calmement, très sereinement, non, au contraire, c'est une situation facilement gérable, et ces gens-là aussi, pas de problème, ce serait une erreur. Et là, j'ai pris un temps, histoire de créer une ambiance, avant d'enchaîner, de louper une telle opportunité. C'est aussi une des phrases que dit souvent ma femme. Deville n'a plus rien dit, on se comprenait, comme toujours, pas besoin d'explication. Avec vous, si? Non, bien sûr. Puis il m'a tendu la main et a dit, on parle répartition. Pas la peine, j'ai répondu. J'ai une totale confiance en vous. Décidément, vous êtes un garçon étonnant, Franck, il a dit.
C'est un garçon étonnant, Franck. C'est drôle, ça. C'est exactement ce que ma femme m'a dit le soir de notre rencontre. Je donnais un coup de main au pouls, là, Jean-Charles. Pendant que j'étais au tôle, il était devenu propriétaire de plusieurs endroits à la mode. La plupart du temps, je glandais. J'étais là juste pour surveiller que les clients se tiennent correctement et foutre les dealers à la porte. Enfin, du moins, ceux que le pouls avait décidé de bannir. Je connaissais la carte du restaurant par cœur, la liste des vins sur le bout des doigts, j'étais incollable. C'est moi qui aurais dû être le manager à la place de cette tête de con qu'avait choisi Jean-Charles. Aussi con que son prénom, Hugues. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. J'étais nourri, je buvais à l'œil, je repartais avec un billet, j'avais l'impression d'être encore dans le coup. Je me demandais souvent quelle tête ferait Christelle si elle avait débarqué un soir. Ou Ursula. Je les aurais conduites à une table, leur aurais offert une coupe de champagne, peu importe qui les accompagnerait, j'aurais été d'une classe et d'une politesse irréprochable. Aucune revendication, juste le plaisir de les voir me voir encore dans le circuit, et dans un beau costard. Mais elles n'ont jamais débarqué et je commençais à piaffer d'impatience. Le pouls, c'était le style à jamais oublier qui vous avait rendu service, à vous le rappeler jour et nuit jusqu'à l'overdose. En plus, il se servait de moi pour se la raconter. Ça se voyait à la manière dont ses potes avaient dévisagé. Ça les excite, les snobs, vous savez, de connaître des gens qui ont fait de la tôle, de fricoter avec des mecs qui ont fait de la tôle. Sauf que vous me connaissez assez maintenant pour savoir que je suis pas le genre avec qui on fricote. Donc, je me disais qu'il était vraiment temps que je bouge avant de plus pouvoir résister à l'envie de lui en mettre une, histoire de lui rappeler que la vie, c'est pas toujours facile. Ce qui aurait été peu judicieux vu mon CV. En plus, pour aller où? Je retournais tout ça dans ma tête un vendredi soir en buvant un demi au bar. Le restaurant était blindé, on était en milieu de soirée, le pouls était à l'autre bout du comptoir avec ses potes qui me regardaient du coin de l'œil et il me fait signe avec l'index de venir. Ça, franchement, mes amis, c'est le pire qu'on puisse me faire. Une cause de rupture immédiate. C'est l'acmé de l'irrespect, l'index. L'acmé. Acmé, du grec acmé. Sommet. Si vous connaissez pas ce mot, je peux plus rien pour vous. Je sais pas, ouvrez un livre de temps en temps, sans déconner. Bref, j'étais en train de me demander comment réagir à cette nouvelle humiliation quand soudain, devinez quoi? Allez, un effort. Voilà, c'est ça. La femme de ma vie est entrée. J'ai tout de suite vu. Vous connaissez cette sensation en avion quand il y a des turbulences, que l'appareil décroche de 300 mètres et que ça vous retourne le ventre? J'ai ressenti la même chose à la seconde où je l'ai aperçu. Je me suis dit, je vais épouser cette femme. Je vous le jure, sur la tête de ma mère. Je crois même que je l'ai dit à haute voix. Elle était là, vertigineuse de beauté, En tailleur Paul Smith, si ma mémoire est bonne. L'élégance incarnée, un temps suspendu. Une lueur d'espoir parmi toutes ces meufs bronzées en cabine et maquillées comme des voitures volées. Je suis allé vers elle avant que la tête de con intervienne et j'ai posé délicatement ma main sur son coude en disant s'il voulait bien me suivre. Elle n'a pas bougé, moi non plus. On était là, immobiles, sous les regards hallucinés du con et du pou, toujours accoudés au bar, et on ne remuait pas un cil. Puis elle m'a détaillé des pieds à la tête. Je portais un costume en baratéa bleu nuit et des richelieux noirs à bout glacé. Vous savez ce qu'elle m'a avoué plus tard ? Qu'elle avait adoré mes chaussures. Vous voyez ? Soyez attentifs, mes amis. Vous apprendrez des choses. Et elle a fini par dire, avec plaisir, merci. Je l'ai conduite à une table à l'écart. J'ai arrêté au vol un serveur pour commander une bouteille de Don Ruinard rosé. Elle m'a demandé, vous êtes le patron ? Non, j'ai répondu, je suis que de passage. Formidable, asseyez-vous, elle a dit. Ce que j'ai fait, et le serveur est arrivé, il nous a servi de coupe et on a trinqué. Elle me disait qu'elle venait repérer les lieux pour Generosity quand le pou a débarqué, fasciné. Tu me présentes pas ton ami, l'a demandé, j'ai pas eu le temps de répondre. Ma future femme a claqué un ongle manucuré sur la bouteille de champagne en disant « Vous auriez un seau à glace, s'il vous plaît, j'aime le champagne quand il est frappé. » Ça l'a scotché le pou. Il en est resté bouche bée la première fois que je voyais faire le poisson. Je peux te parler une seconde, il a fini par dire en m'appelant par mon prénom, qui n'était pas Franck à ce moment-là. Non, je ne vous dirai pas comment je m'appelais à l'époque. Aujourd'hui, mon prénom, c'est Franck. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Et il a dégagé. Ma future femme a répété mon prénom plusieurs fois, pensivement. Et elle a fini par dire « Il va falloir changer ça. » Quand j'ai entendu prononcer ces mots, j'ai été submergé par une émotion extraordinaire, une boule de chaleur est partie de mon ventre et s'est propagée dans tout mon corps, envahissant picotement mes pieds, mes mains, mes lèvres, mon crâne, comme si j'étais traversé par un courant électrique. C'est la chose la plus incroyable qui me soit jamais arrivée. J'ai beaucoup réfléchi à cet instant, beaucoup. Cette émotion si forte, si puissante, c'était... Ouais, j'en suis sûr. C'était un concentré d'amour. D'amour pur. J'ai répondu, je ferai tout ce que tu voudras. Et on s'est cassé. On est allé dans un bar au centre-ville. On a parlé toute la nuit. Je lui ai raconté toute ma vie dans les moindres détails. C'était la seule chose à faire. Assumer, se mettre à poil, ne rien cacher. Je me suis arrêté au moment où elle est entrée dans le restaurant. Là, elle a pris ma main et elle m'a dit « Vous êtes un garçon étonnant, Franck. »
C'est à cet instant-là que je suis devenu Franck et que j'ai connu le bonheur pour la première fois de ma vie. Il lui a fallu 6 mois pour obtenir un nouveau passeport, un nouveau permis de conduire avec ce nom. Ensuite, elle m'a fait engager comme chauffeur et j'ai pu commencer une nouvelle vie avec cette nouvelle identité. Je vous l'ai dit, ma femme est très intelligente. C'est pour ça que personne ne doit savoir qu'on est ensemble. Si une connaissance de mes années de galère me reconnaissait, un client ou pas, ça la compromettrait. Et ça, il en est hors de question, on s'est mis d'accord là-dessus dès le départ. Donc pendant un an, j'ai conduit des gens pétés de thunes aux aéroports, dans les palaces, les magasins de luxe. J'ai beaucoup attendu aussi, beaucoup lu. J'ai été heureux, très heureux. Mais le problème, c'est que... Je connais la vie, celle qui mérite d'être vécue. Grâce à l'art, aux antiquités, à la littérature. Je sais où manger le meilleur canard à l'orange de Paris. J'ai lu Proust. J'ai du goût. Je connais les belles choses. Mais j'ai que dalle. Vous comprenez? Que dalle. Ma femme m'a toujours dit, sois patient, Franck, ton tour viendra. Je suis patient. J'ai toujours été patient. Et là, là, dans la Mercedes, je me suis dit que grâce à Deville, effectivement, là, peut-être que mon heure était arrivée. Je venais le chercher à son hôtel à 23h précises. Toujours aussi élégant, il portait un costume croisé gris souris dans un lainage très léger, du fresco j'imagine, avec au pied, sa paire de derby, et sur la tête un chapeau en feutre. Je lui avais conseillé de mettre un chapeau au cas où il y aurait des caméras. Moi j'avais une casquette de chauffeur, des gants en cuir et des Ray-Ban modèle Aviator. Il a pris place à l'arrière et j'ai mis les gaz en direction des comiques associés. Une fois arrivé, j'ai bondi pour lui ouvrir la portière. Il s'est dirigé vers la maison en ajustant son couvre-chef. Prêt pour l'aventure, il a dit. Toujours, j'ai répondu. Cool, il a enchaîné. Hyper zen de ville. La classe. Après avoir jeté un œil à une des caméras de surveillance, il a appuyé sur l'interphone. Le Serbe, le canard et sa femme sont sortis. La femme du canard portait une mini-jupe en cuir noir et le canard une chemise hawaïenne, déjà en route pour Bangkok avec son travelo, j'imagine. J'ai ouvert la portière, j'hallucinais, il s'engueulait pour savoir qui allait s'asseoir où. Deville, imperturbable, a mis fin à la dispute en invitant poliment le canard à prendre place devant. La résidence hôtelière était en banlieue proche, dans un quartier en pleine reconstruction, au fond d'une impasse. On sentait qu'il n'y avait pas foule là-dedans, seulement deux voitures sur le parking et pas un Pékin dehors. Je me suis garé et j'ai laissé sortir tout le monde pour prendre tranquillement mon Beretta caché sous le siège. Je vous ai parlé de Beretta ? Non ? C'est un 9 mm, je crois. J'y connais rien en flingue, je déteste les armes. Je l'avais acheté un soir à un mec bourré, un ancien troufion qui l'avait rapporté d'Irak ou d'Afghanistan, je ne sais plus très bien. Bref, je l'ai calé à l'arrière de mon pantalon pendant que les autres se regroupaient de l'autre côté de la voiture. Une caméra surplombait l'entrée de l'immeuble. Même si mon visage était protégé par ma casquette, j'ai baissé la tête. Deville m'a imité. Il y avait un endroit où il fallait connecter le pass électronique tout au composant un code d'accès. La femme du canard a sorti les passes de son sac, en a posé un sur le détecteur. Le canard a composé son code et la porte s'est ouverte. L'appartement était au rez-de-chaussée au fond d'un couloir. Dans le salon, il y avait un canapé et deux fauteuils en cuir blanc, des stores à bande verticale, blanc aussi. Au plafond, une suspension en métal, en chrome. On se serait cru chez le dentiste. La table basse en verre avait été poussée contre le mur pour faire de la place pour les 5 caisses en plastique qui contenaient de l'argent. Il faut toujours bosser ses dossiers. 1 million en billets de 50, ça occupe un volume d'environ 35 litres et ça pèse dans les 25 kilos. Donc ces caisses me semblaient plutôt cohérentes. Deville a demandé à voir l'argent. Le canard s'est approché d'une des caisses, mais sa femme l'a poussé violemment en disant « Pas touche, laisse faire Francis ». Deville a fait un signe au Serbe qui a enlevé le couvercle de la première caisse. À l'intérieur, il y avait un sac poubelle noir fermé avec du scotch épais. Il a déchiré le scotch, écarté les pans du sac. Pas de doute, c'était bien des liasses de billets de 50, impeccablement rangées, neufs, purs de toute souillure humaine. Deville s'est penché pour en prendre une au fond du sac et en vérifier le contenu. On aurait dit papy quand il expertisait un meuble. Et il a fini par dire au Serbe, c'est bon, suivante. Ils ont fait la même chose avec les trois autres caisses et c'est au moment où le Serbe allait soulever le couvercle de la cinquième qu'un des téléphones du canard s'est mis à sonner. Le canard l'a extrait aussi vite que possible du fond de sa poche et a répondu, mais pas de bol pour lui. Son portable s'est mis en mode haut-parleur. La voix d'une jeune femme avec un accent étranger demandait « Bébé, ça va, bébé ?»« Cause pas ta pute devant moi !» a hurlé la femme du canard. En se précipitant sur lui pour lui arracher son téléphone tout en lui donnant des coups de pied dans les tibias, le canard reculait une main en l'air et l'autre devant lui pour se protéger comme il pouvait, et il a fini par s'écrouler comme un sac dans un des fauteuils, suivi dans l'instant par sa femme. Deville s'est tourné vers moi et m'a demandé « Auriez-vous l'obligeance, s'il vous plaît, de mettre un semblant d'ordre dans cette pièce ?» Avec plaisir. J'ai répondu « Bouge pas !» a crié le Serbe avec sa voix de jouet pour chien. Aussitôt suivi par la femme du canard qui hurlait « Tire-lui dessus !» Je me suis retourné. Le cerf me visait avec un flingue. On aurait dit un jouet en plastique tellement il semblait minuscule dans sa grosse patte toute rose qui, soit dit en passant, tremblait comme une feuille. « Fais pas le con !» j'ai dit en tendant une main pour freiner son enthousiasme. Tandis qu'avec l'autre, j'essayais de sortir mon Beretta. Petite parenthèse, il y a un vrai souci avec les pantalons ajustés à la taille. Déjà que c'est pas facile de caler un flingue derrière, pour l'extraire, c'est carrément l'enfer. La femme du canard, elle, avait réussi à s'extraire du fauteuil et s'était éloignée de son mari. Pas lui, abruti, lui, elle criait au Serbe en désignant le canard qui a la vue du flingue. C'est aussitôt mis debout. Le Serbe a pointé son flingue en direction du canard, mais il s'est pris les pieds dans une des caisses en plastique et a trébuché. Un coup est parti. J'avais jamais entendu le bruit d'un flingue en vrai. C'est pas du tout comme on imagine. C'est pas du tout impressionnant. Ça fait autant de bruit qu'un pétard. J'ai senti la balle passer tout près de mon oreille.
il y a eu un gros bruit métallique et la suspension en chrome s'est mise à osciller. On serait cru au stand de tir d'une fête foraine. Bravo le comique, t'as gagné une peluche. Une fois retrouvé son équilibre, le comique a tiré une seconde fois sur le canard. Aucun bruit métallique cette fois, même si la suspension de chrome oscillait toujours en faisant un jeu de lumière sur le mur. Le canard, lui, ne bougeait pas, il regardait son bide. On voyait rien à cause du coucher de soleil et des palmiers imprimés sur sa chemise. Et il a fini par pousser un cri, comme s'il s'était retrouvé brusquement sous une douche froide. Il a posé ses mains sur son ventre, a reculé de deux pas, et une fois contre le mur, s'est laissé descendre sur les fesses. J'avais enfin réussi à sortir mon Beretta, même si ça servait à rien, j'avais pas de balle, et si j'en avais eu, pas sûr qu'il aurait fonctionné. Pour rien vous cacher, quand je l'avais acheté, moi aussi, j'étais bourré. De toute manière, personne ne faisait attention à moi parce que la femme du canard s'agenouillait dans un mouvement lent et continu à côté de son mari. En fait, je me suis dit, elle est folle de lui. Et elle a fini par s'écrouler sur les jambes du canard, face contre terre. Un silence profond a envahi la pièce. Puis la voix du téléphone s'est mise à causer. « Bébé ? T'es là, bébé ?» C'est Deville qui a trouvé l'explication. Elle s'est prise la première balle, celle qui a ricoché sur la suspension. J'avais pointé mon Beretta sur le cerf, mais c'était hors sujet. Il avait jeté son flingue par terre comme s'il était devenu brûlant. « Non, non !» il disait tout en allant vers la femme du canard. « Non, mon amour, je t'en supplie, lève-toi, lève-toi. Bébé, crachait le téléphone, gros bébé. » Je me suis fait la réflexion que, décidément, la nature humaine était étonnante. Et j'ai rangé mon flingue. Le Serbe s'apprêtait à prendre la femme du canard dans ses bras quand Deville lui a dit « Ne la touchez pas, ramassez votre pistolet et mettez-le dans la main de son mari. » Tout ça avec autorité. Francis a éclaté en sanglots. Il a redit une dernière fois « Mon amour » et a essuyé son flingue avec un pan de sa chemise avant de le mettre entre les mains du canard en appuyant fort sur les doigts, comme dans un film. Deville lui a demandé de prendre une liasse de billets et de l'éparpiller sur les corps du canard et de la femme du canard. Pourquoi pas, une dispute conjugale pour de l'argent qui finit tragiquement, ouais, ça peut faire la blague. 5 minutes, hein, pas plus. Ensuite, on a déménagé les caisses en plastique dans le coffre de la Mercedes. Il n'y avait toujours pas un chat dehors, mais j'ai remarqué une voiture noire à 50 mètres qui n'était pas là quand on est arrivé. J'arrivais pas à voir s'il y avait quelqu'un dedans ou pas. Juste avant d'embarquer la dernière caisse avec Deville, on a évoqué le cas du Serbe. Je suis allé dans la cuisine, j'ai pris un sac poubelle et je l'ai rempli de liasses, il y avait environ 50-60 000. J'ai tendu le sac au cerf en lui disant « Écoute-moi bien mon pote, je te revois, j'entends parler de toi, t'es mort. » Il reniflait, elle était si jolie. Il disait « Je lui ai mis le sac dans les mains et la pression aussi. Vas-y gros bouge, retourne à Belgrade, achète-toi un bar tabac. » Je suis albanais, il a rétorqué, indigné. « Je m'en branle, casse-toi, j'ai dit. » Et il s'est cassé. Il était déjà loin quand Deville a pris place à l'arrière de la voiture. J'ai mis le contact, passé la marche arrière et jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. C'est là que j'ai vu que la voiture noire bougeait, tout feu éteint. J'ai appuyé sur l'accélérateur, mais trop tard, dans un dérapage, elle s'était mise en travers de l'allée et m'avait bloqué. La lumière bleue d'un gyrophare inondait l'habitacle de la Mercedes. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé Deville. « C'est la police. » J'ai dit « Je veux pas avoir de problème. » Franck a supplié Deville. C'est la première fois de la soirée que je le voyais déstabilisé. « Ne vous inquiétez pas, j'ai répondu, je m'en occupe. Comment ? J'en savais foutre rien. Je suivais le conseil de ma femme qui dit toujours « Même dépassé, donne l'impression de maîtriser. Ça laisse le temps aux solutions d'arriver. » Les flics s'approchent. Lentement, la Mercedes, je prends le Beretta que j'avais remis sous mon siège et je sors en tenant caché derrière mon dos. « Bonsoir, messieurs, je dis aux policiers. L'un d'eux était très grand et l'autre avait l'air d'un gamin. Vous êtes le propriétaire de ce véhicule ? Me demande le plus grand, comme c'était pas le moment de faire le malin. » Je réponds en montrant ma casquette, non, j'en suis seulement chauffeur. Ouvrez le coffre, s'il vous plaît, avec plaisir. Je dis, mais c'est quoi le problème ? Ouvrez le coffre, il répète, hyper nerveusement. Je jette un coup d'œil sur l'autre flic, lui était carrément en plein stress. D'accord, d'accord, je me dis. J'ouvre le coffre, toujours le flingue dans le dos, la lumière s'allume, et quand le plus grand se penche en avant pour en vérifier le contenu, je peux l'observer à mon aise. Là, je vois que son oreille est pleine de trous, des trous de piercing. Donc, je lui donne un gros coup de crosse sur la nuque, il gueule comme un chacal, se redresse, bam, se fracasse la tête contre la porte du coffre, et là, je lui remets un coup sur l'oreille. Ça va, vous y êtes ? Oui, merci, l'asperge percée, le livreur de pizza, c'est gentil de suivre. Il tombe sur les genoux, défoncé, pendant que le jeune, en totale panique, court comme un dératé vers la voiture noire. J'étais sûr qu'il allait partir sans l'asperge, mais après avoir démarré sur les chapeaux de roue, il freine sec, ouvre la porte avant, et l'asperge, qui entre-temps s'était remis debout et courait en zigzagant, grimpe comme il peut dans la bagnole. Dans un crissement de pneus, la porte encore battante, ils prennent le large, pas terrible comme sortie. Je me suis dit, décidément, aucun style. Je suis retourné dans la Mercedes. Deville était recroquevillé en position fœtale sur le siège arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé. Je vous raconterai plus tard. J'ai répondu qu'on aura dégagé d'ici. Une fois passé le périph', je me suis garé dans une rue calme. Deville est descendu pour s'asseoir à côté de moi. Pardon, il a dit, c'est la première fois que je vois des gens mourir par balle, ça secoue. Moi aussi, j'ai répondu, mais il paraît qu'on s'habitue à la longue. Pour être franc, ce début de soirée m'avait mis une patate d'enfer. J'ai raconté à Deville que j'avais reconnu le livreur de pizza, l'asperge, là, il a secoué la tête en disant « Je n'aurai qu'un mot. » Bravo. Et il ajoute, ce qui m'inquiète, c'est la voiture. Les caméras de surveillance ont dû la filmer. C'est pas ma voiture, j'ai répondu. Oui, je sais, il a dit, mais je l'ai interrompu. J'ai pris celle d'un collègue qui travaillait pas ce soir. J'ai pris ses Ray-Ban aussi et sa casquette. On a la même corpulence avec ce mec, ça tombe bien, non? Ce mec, c'était mon pote, Luc. Ça l'a mis en joie, devine. Il s'est redressé d'un coup, ajusté son chapeau en l'inclinant légèrement et retrouvé sa classe. Quel talent, il disait, quel talent. Pas de fausse modestie, j'étais d'accord avec lui. Je pensais à l'avenir. D'abord aller à Londres, me faire faire des costumes sur mesure à Savile Row. En profiter pour acheter des chaussures et des chemises chez Jermyn Street. On descendrait au Claridge, bien sûr. Peut-être même que Deville nous rejoindrait. Ensuite, partir en Italie, sur la côte amalfitaine, visiter Portofino, voir Capri, et puis direction Rome. Ses musées et ses églises baroques. Contempler les Caravages. Je ne suis jamais allé en Angleterre ni en Italie, par contre, je sais ce qu'il faut y faire. Contrairement à tous ces touristes qui ne connaissent rien. Bref, Deville me parlait et moi j'étais dans ma bulle en train de faire le tour du monde. Il parlait de commission, de ma commission. Vous savez quoi? J'ai grimacé. J'aimais bien Deville, il avait du style, du goût, de la classe, il avait plutôt assuré pendant cette soirée, mais là... Là, il frôlait la connerie, là. Il était même en plein dedans. Je regardais me sourire avec ses dents blanches, d'une blancheur éclatante, amplifiée par son teint hâlé. Et soudain, la lumière devient bizarre, elle change d'intensité, par à coup. Je regarde par la vitre, il y avait un souci avec les réverbères, sûrement un problème d'alimentation électrique. Je me tourne à nouveau vers Deville, son sourire est de plus en plus large. Ses narines de plus en plus dilatées. Ses joues s'étirent à vue d'œil en longueur et en grossissant se rapprochent de moi. Je m'entends dire « Ah putain, non, pas ça !» C'était horrible. Deville se transformait en crocodile.
Après mon embrouille avec papy, j'ai vécu un moment chez mon père. Ça a été un désastre. Il habitait un immeuble délabré dans une seule banlieue, décalé à tous les étages, et le bruit sourd de la techno jusqu'à l'aube. L'enfer. Ces journées, il les passait à fumer des joints, en écoutant de la musique pourrie. Moi, j'essayais de rester clean et structuré dans ce merdier ambiant, et de trouver du travail. Un soir, je rentre à la maison, mon père était écroulé comme d'habitude dans le canapé, un joint à la main, et il me dit
« J'ai un petit cadeau pour toi. »
« Ah ouais, c'est quoi ?» je demande. « De l'acide, une bombe, » il me répond. Je vous laisse imaginer ma réaction. Vas-y, tu veux jamais fumer avec moi, on se prend jamais la gueule non plus bien. On se fait un délire, c'est une bombe ce truc, je te dis. Ça va nous rapprocher. Oui, je sais, parfois on est naïf. Mais c'était mon père, ce mec, et je me disais que j'allais peut-être enfin découvrir un être humain qui se cachait derrière ce gros con.
Parce qu'il faut toujours garder espoir. Non?
Bref, j'ai gobé la cible. Aucun effet, évidemment. Au bout d'une demi-heure, je suis allé pisser et en me lavant les mains, je me suis regardé dans la glace. Toujours rien. Je me suis assis sur le couvercle des chiottes et j'ai réfléchi. Fallait vraiment que je trouve une solution pour me casser d'ici définitivement. Je regardais le sol de la salle de bain, un lino pourri et fait marbre, dégueulasse de crasse. Et je me disais, c'est pas possible, putain, faut que je nettoie cette merde. Et en même temps, je me disais...
Ça va, c'est bon, sans déconner, c'est pas à moi de faire ça, j'ai passé ma vie à nettoyer derrière mon père.
Et quand je parle de nettoyer, je parle pas que de ménage, évidemment. Et là, il se passe un truc de ouf. D'un coup, toute la crasse, toute la saleté se soulève du sol et se met à flotter sur un plan parallèle. Et en transparence à travers, je vois la beauté du lino tout neuf, immaculé, et ses veines de marbre qui brillent. Étincelle de mille feux.
C'était magique.
Je sais pas combien de temps je suis resté scotché à regarder le sol. Et j'ai fini par retourner dans le salon. Alors, ça dit quoi, bien ou bien, me demande mon père. Je me suis assis à côté de lui sur le canapé. Il était en train de caler un son sur son iPod, relié à une paire de baffles. Pas scorpion, s'il te plaît, je dis. Ton problème, mon pote, il commence. Je me suis fait la réflexion que, décidément, ce début de phrase résumait bien mon père. Combien de fois dans ma vie je l'avais entendu dire « Ton problème, mon pote ?»
C'est que t'as un goût de shot, il a dit.
J'ai tourné ma tête pour le regarder. On était vraiment très proches l'un de l'autre sur ce canapé. Il souriait toutes ses dents, n'importe quel autre mec, j'aurais... Vous voyez ce que je veux dire. Mais lui, c'était pas possible. Je pouvais pas lever la main sur mon père.
Parce que... Et c'est pas facile à avouer, c'est la seule personne dont j'ai peur.
Une peur bleue. Un chien dans mon froc.
Voilà, c'est dit.
Je le regardais avec son sourire à la con en train de tripatouiller l'iPod qu'il avait dû piquer à une aveugle en chaise roulante. Et tout d'un coup, son visage se met à flotter au-dessus de sa tête. Le même délire que dans la salle de bain, et en transparence, je vois une tête horrible, poilue, avec un sale sourire, des dents jaunes et de la bave qui coule en filet. Putain, je crie. Qu'est-ce que t'as, dit mon père? Je hurle dessus.
T'es un rat, t'es un sale rat, je dis.
Flippé comme un malade. Mon père prend l'assiette devant lui sur la table avec le reste de pizza qui stagnait dessus et me la balance à travers la gueule. Et il enchaîne avec le cendrier.
Un conseil, n'allez jamais aux urgences sous acide, ça sert à rien. C'est du gâchis. Vous n'apprendrez rien, ni sur vous, ni sur quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Il aura fallu une nuit entière pour m'enlever des morceaux de verre, encastrés, et des morceaux de pizza aussi. Ils m'ont dit que des deux, le plus dangereux c'était la pizza, je le savais déjà. Ça m'arrive pas souvent ce genre de vision, très rarement, même quand je suis fatigué ou stressé. Là, les visages se décollent, ils flottent au-dessus des têtes et à travers eux, je vois, comme à travers un voile, d'autres visages. Des visages d'animaux, ou de très vieilles personnes, ou de monstres. Ma femme est au courant de ces crises, je lui en ai parlé. J'arrive à gérer avec un Valium. Ça passe doucement, tranquillement. En général, mais avec de l'huile dans la voiture, ça a été une autre histoire. Le long museau du crocodile qui avance vers moi, ses mâchoires puissantes qui s'ouvrent et se ferment dans un bruit d'enfer, ses dents immenses qui s'entrechoquent. J'essaie comme je peux de me libérer de ma ceinture, d'ouvrir la portière et de me casser le plus loin possible de ce cauchemar. Et dans le mouvement, je sens le Beretta sous mes pieds sur le plancher, donc je m'en saisis avec. Je mets un gros coup de crosse sur le museau du crocodile. Et à un autre, j'entends un craquement, des hurlements. Deville est plié en deux sur son siège. Il gémit de douleur et essaie de reprendre sa respiration, mais surtout il crache. Il crache du sang, des morceaux de dents. Il y avait une boîte de mouchoirs en papier dans la boîte à gants. Je la sors, j'en prends un paquet. Je lui tends en disant « Désolé, pardon ». Il me l'arrache des mains, se remplit la bouche avec. « Ça va aller, je dis, je vais m'occuper de vous. Je démarre la voiture, je vous emmène à l'hôpital, je dis. Ils vont vous soigner. » Il grogne, se tasse encore plus sur son siège. « Courage, il n'y a pas mort d'homme, je dis. » Ce qui n'était pas tout à fait vrai, mais bon, il fallait bien dire quelque chose. En chemin, je m'arrête à cause d'un feu rouge.
Mon flingue sur le plancher me gênait, donc je me baisse pour le pousser. Deville a cru que j'allais lui en remettre un coup parce qu'il a ouvert la portière et s'est éjecté de la voiture en piquant à 100 mètres. J'ai pas essayé de le rattraper, j'avais pas le temps. Je devais ramener la voiture de Luc, nettoyer le sang, enlever les morceaux de dents avant qu'il reprenne son service. Et puis ça va quoi, franchement, il pouvait aller se faire foutre, Deville. Il lui manquait 3 dents, ça va, c'est pas la fin du monde non plus. Je m'étais mis en 4 pour lui, j'avais pris des risques pour lui, j'avais une confiance absolue en lui, et il me parlait de quoi, de commission? Comme si j'étais un vulgaire vendeur de moquettes.
Je me suis garé près du bureau. Les réverbères clignotaient toujours, mais je sentais que j'allais mieux, même si j'avais l'impression que les voitures qui passaient me faisaient des appels de phare. J'ai appelé ma femme. Je savais qu'elle dînait avec un client important, mais j'avais besoin d'entendre sa voix. Je lui ai donné une version édulcorée de la soirée. J'ai pas mentionné le trépas du canard, ni de celui de la femme du canard. Ça va, trépas, vous connaissez ce mot? Oui, bien sûr. Par contre, je lui ai raconté ce qui s'était passé avec Deville. Il est où maintenant? Elle m'a demandé. Je lui ai dit que la dernière fois que je l'avais vu, il courait dans les rues, la gueule en sang. Ma femme est restée calme. Elle m'a dit d'aller déposer la voiture de Luc au garage, de la nettoyer, de mettre l'argent dans la voiture que je conduis habituellement, qui serait en sécurité jusqu'au lendemain. De rentrer en taxi à la maison et de prendre un Valium. Qu'elle allait arriver vite. Que tout allait bien se passer. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Il y a une chose que j'aimerais clarifier. J'ai pas fini Proust. Je me suis arrêté à la moitié du premier tome. Il m'a rendu fou, ce mec. Il sait pas finir une phrase. Enfin, sans déconner, il faut assumer, quoi. Faut finir ses phrases. Ma femme m'a dit « Je t'aime, Franck ». Elle le dit rarement. Pas comme tous ces gens qui parlent pour rien dire. Ma femme, elle connaît la valeur des mots. C'est ça qui me plaît chez elle. Là, elle est sur messagerie. Elle me fait attendre. Mais bon, tout va bien. Elle doit être occupée. Elle a sûrement des choses à faire. Elle sait ce qu'elle a à faire, la femme de ma vie. C'est normal. Elle est très intelligente. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Arrêtez. Arrêtez d'imaginer des trucs. Ne cherchez pas sérieux. Ou ça va mal finir.